Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien de l'Europe directe de Strasbourg. Cette semaine, les députés européens se sont retrouvés à Strasbourg pour la deuxième session du mois d'octobre. Cette session aura été marquée par un débat animé entre le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, et les députés européens. Ce débat faisait suite à une décision controversée du 7 octobre du tribunal constitutionnel polonais qui affirmait que certains articles des traités européens étaient incompatibles avec la constitution polonaise, ce qui revient indirectement à remettre en cause l'ordre juridique européen et notamment la primauté du droit européen. Alors qu'on imaginait que le Premier ministre polonais venait s'exprimer au Parlement pour tenter d'apaiser les tensions déjà fortes entre le gouvernement polonais et les institutions européennes, ce débat a surtout montré le raidissement des positions et l'exaspération des députés européens. Pour revenir sur cette actualité, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Freund, député européen du groupe des Verts. Bonjour Monsieur Freund.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pourrais ajouter que vous êtes donc citoyen allemand, que vous êtes membre de la commission parlementaire du contrôle constitutionnel et budgétaire. Et c'est aussi ce qui vous amène à vous intéresser aux questions d'état de droit, de démocratie, de transparence et de lutte contre la corruption. Et donc, indirectement aussi aux difficultés que posent aujourd'hui des gouvernements tels que celui de la Hongrie ou de la Pologne, pour ne parler que d'eux. Alors, Monsieur Freund, le PiS, le Parti Droit et Justice, depuis son arrivée au pouvoir en Pologne en 2015, a entamé une série de mesures controversées visant à réformer son pouvoir judiciaire. Qu'est-ce qui est vraiment reproché aux autorités polonaises par l'Union européenne ?
D'une certaine manière, une attaque générale contre l'état de droit, aussi contre la liberté de la presse, par exemple, avec une réforme de la justice où on a systématiquement remplacé les juges qui n'allaient pas au gouvernement, qui prenaient des jugements qui plaisaient pas au gouvernement. Donc on a instauré un système politique pour nommer les juges. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la nomination d'un juge de cette on appelle ça une cour constitutionnelle, mais elle est illégitime, elle est composée de manière illégitime. Donc tous les jugements aussi qu'elle prend, incluent le jugement que vous avez mentionné, pourraient être considérés illégitimes. Donc il y a vraiment une attaque assez sévère sur l'état de droit en Pologne, mais avec ça aussi sur l'état de droit dans l'Union européenne.
C'est ce qui a expliqué aussi la fameuse décision qui a été de réglementer ou de restreindre les questions d'avortement en Pologne. C'est également le tribunal constitutionnel qui avait pris une décision qui restreignait ce droit.
C'est vraiment maintenant une justice qui est entièrement contrôlée par le gouvernement, parce que tous les juges dans cette cour sont nommés par le gouvernement. Et on l'a vu à la fois sur l'avortement, mais aussi sur cette question de la primordialité du droit européen. Le gouvernement, ensuite, qui déclenche une décision sur ces questions. Donc, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils ont les juges qu'ils ont nommés et qui produisent le résultat qui était tout à fait prévu par le gouvernement.
Alors, pour des personnes, cette fois-ci, un peu non spécialistes, quelle différence on peut faire par rapport à l'état de droit entre un pays comme la Hongrie et la Pologne? Est-ce que c'est la même chose, les atteintes à l'état de droit? Est-ce que c'est un peu différent? Parce que c'est vrai que les deux pays sont mis en cause. On a l'impression que la Pologne, c'est plus une atteinte cette fois-ci au système judiciaire, alors qu'en Hongrie, c'est plutôt à la liberté de la presse ou des questions de corruption.
Il y a des similarités. Il y a des attaques sur l'indépendance de la justice dans les deux pays. On a remplacé les juges qui plaisaient pas au gouvernement. On a entièrement pris contrôle des avocats généraux. Mais il y a des différences aussi. Moi, je dirais la plus grande différence est la corruption. On commence à voir un peu aussi en Pologne, mais pour le moment, ça a été moins prononcé. C'est plus une lutte idéologique pour prendre vraiment plein contrôle de la justice. En Hongrie, l'entourage de Viktor Orban, sa famille, ses amis, profitent financièrement du contrôle politique du pays et qu'ils deviennent incroyablement riches. Ils ont volé des milliards d'euros ces dernières années, inclus de fonds européens, et qui sont riches personnellement, mais aussi qui utilisent évidemment cet argent pour assurer le pouvoir politique.
L'Union européenne a beaucoup de difficultés, on le voit, à trouver la réponse à ces atteintes à l'état de droit. Comment vous expliquez que c'est finalement si difficile pour l'Union européenne de faire respecter ces valeurs ?
C'était pas prévu. On pensait qu'après la chute du mur et l'effondrement de l'URSS, on pensait que ces États allaient toujours aller vers plus de démocratie, plus d'États de droit, plus de lutte contre la corruption. Et pendant tout le processus d'adhésion à l'Union européenne, ça s'est fait comme ça. Et le moment qu'ils ont joint l'Union européenne, en fait, la pression est partie. Et depuis, on voit que cette évolution soit s'est arrêtée, même elle recule, comme en Hongrie et en Pologne. Donc, il manquait pendant longtemps les outils de faire quelque chose. On avait l'article 7, donc un processus où on peut enlever le droit de vote. Mais pour l'enlever, il faut l'unanimité des autres, donc des 26. Et une fois que le PiS avait pris le pouvoir en Pologne, ils se sont promis avec la Hongrie, voilà, mutuellement, on va se défendre, on ne va pas voter pour un enlèvement du droit de vote. Donc cet outil était cassé depuis ce moment-là. Et en plus de ça, il n'y avait pas grand-chose que l'Union pouvait faire. Donc moi, j'étais un des négociateurs l'année passée qui a négocié ce nouveau mécanisme de l'état de droit. Donc la possibilité maintenant de l'Union européenne de dire s'il y a de telles violations de l'état de droit, on peut couper les fonds. Donc depuis le 1er janvier, maintenant, la Commission a ce nouveau outil, mais elle refuse de l'utiliser. Donc depuis, on lutte d'une certaine manière, contre la Commission européenne pour qu'elle devienne active, enfin, pour défendre l'état de droit en Europe.
On reviendra sur cet outil parce que je pense que c'est une des portes de sortie qui peut s'ouvrir maintenant par rapport à la situation. Mais on a quand même donc cette question du primauté de droit. Donc on a quand même eu des décisions de la Cour de justice de l'Union qui avait été saisie pour des manquements au droit par la Pologne. Là aussi, donc, on voit que c'est donc pour réagir à ces décisions de la Cour de justice, que le tribunal constitutionnel polonais a pris cette décision.
Tout à fait. Et il y a cet argument de la Pologne qui dit bon, la justice, c'est pas une compétence européenne. Donc l'Union européenne n'a rien à dire sur ce qu'on fait chez nous avec la justice. Mais il faut dire que tout le droit européen et l'Union européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de lois et de traités qui doit être respectée par tout le monde. Et chaque État s'est joint à l'Union européenne de manière volontaire. La Pologne, la Hongrie, ils ont ratifié tout l'acquis communautaire, les traités, les lois qui étaient là, de manière volontaire. C'était d'ailleurs Kaczynski, le frère du Kaczynski actuel.
Qui est décédé dans l'avion.
Voilà, qui a signé l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Et les cours polonais, ils doivent appliquer le droit européen. Donc toutes ces questions du marché intérieur, de la politique agricole, quoi que ça soit, c'est les cours polonais qui appliquent le droit européen en Pologne. Et s'ils arrêtent de faire, et s'ils arrêtent de respecter les décisions de la Cour européenne qui est la Cour d'appellation dans ces décisions, bon, l'ordre légal de l'Union, elle s'effondre.
Mais on a une sensation, lorsqu'on a écouté donc le Premier ministre polonais, on a une sensation d'un énorme piège tendu par la Pologne. Comment dire, elle a réussi à faire dériver la question de l'état de droit sur la question de la primauté du droit européen, donc sur une question juridique. Elle a été attaquée sur des questions d'état de droit et aujourd'hui on ne parle que de cette question de primauté du droit européen sur le droit national. On voit que c'est un sujet qui s'exporte un peu partout. Il y a beaucoup de pays. On voit en France comment cette décision polonaise a été réutilisée par des candidats à la présidentielle pour dire que la France n'est plus souveraine et qu'il faut qu'elle récupère aussi sa souveraineté de la même manière. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, que cette décision convienne à certains et elle mette en danger aussi le système juridique européen ?
Il y a évidemment un danger énorme pour l'Union européenne. Et je pense que tout ce débat, inclus en France, ça ignore 70 ans d'intégration européenne, parce que dès le début, dès que deux États se mettent d'accord sur quelque chose, bon, d'une certaine manière, oui, on peut dire qu'on perd de souveraineté, ou moi j'estime que c'est notamment le contraire. Parce que sur des grandes questions de notre temps, la lutte contre le changement climatique, l'imposition des grandes entreprises en Europe, défense de nos valeurs dans le monde, sur tous ces domaines, tous les États, ils ne sont pas souverains. L'Allemagne, la France, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'arrivera pas tout seul à imposer les Google ou les IKEA du monde. Mais si on fait ça ensemble avec les 27 États, avec les 450 millions d'Européens, là, on a une chance. Donc ça, c'est la vraie souveraineté. Elle est européenne. Et donc de dire on a perdu notre souveraineté parce qu'on s'est mis d'accord entre 27 et on s'est mis d'accord sur certaines règles, C'est un faux argument de souveraineté.
Alors, je terminerai avec cette question de la primauté du droit. J'aimerais bien avoir votre point de vue, cette fois-ci en tant qu'Allemand. Il y a beaucoup d'États où cette question de la primauté du droit fait débat, même juridiquement. En Allemagne, on a la Cour de Karlsruhe, hein, qui est également intervenue et qui souvent, elle aussi, parle de questions de primauté du droit européen par rapport au droit national. Ça a été le cas notamment pour la dette commune liée au plan de relance, où la Cour de Karlsruhe estimait que ce n'était pas dans les compétences européennes. Comment vous faites la différence entre, même si on le devine un peu par rapport à ce qu'on a déjà dit, entre une cour constitutionnelle polonaise qui remet en cause cela, et la Cour de Karlsruhe qui finalement, elle aussi, vérifie et contrôle les compétences?
Bon, déjà, la plus grande différence est la légitimité de la Cour et des juges qui y siègent. Donc ça, il n'y a pas de comparaison entre Karlsruhe et Varsovie. Mais il faut dire aussi que, évidemment, on est dans une situation où, sur certains aspects, on a des règles communes en Union européenne. Il y a certains domaines où on n'en a pas. Et évidemment, dans un état d'intégration qui est complété à mi-chemin, on n'est pas encore un État fédéral européen, mais il y a des domaines où on a fédéralisé les décisions. On fait une politique commerciale commune où les institutions européennes font toutes les règles et les États membres ne peuvent plus conclure des accords de libre-échange avec qui on veut dans le monde. Parce qu'on est plus fort ensemble à négocier avec les États-Unis, l'Australie ou qui que ce soit. Donc, il s'agit toujours de voir est-ce qu'on est dans un domaine où on a déjà complètement fédéralisé ou fédéralisé à moitié ou pas du tout. Et c'est ça qui fait débat. Mais les cours constitutionnels dans toute une série d'États membres ont des questions là-dessus. Ils demandent à la Cour européenne est-ce qu'on se trouve dans ce domaine-là, dans quelque chose de fédéralisé ou pas. Et ça se tranche en dialogue entre les deux, sans jamais mettre en question le principe où là, on s'est mis d'accord, on accepte quand même que c'est la Cour européenne qui décide et on respecte évidemment la loi européenne. Et ça, c'est toute la différence avec la Pologne. Pas de dialogue avec la Cour européenne et la mise en question de manière générale du droit européen. Et ça ne peut pas fonctionner.
Alors, selon vous, quelles sont les prochaines étapes? Quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer avec la Pologne suite à cette décision et suite à cette crise politique?
Donc, de la part des institutions européennes, évidemment, nous, on ne peut pas accepter que dans un État, on ne respecte plus entièrement la loi commune et la Cour. Et ça veut dire que si quelqu'un ne respecte pas les règles, il ne peut pas avoir l'argent qui doit être dépensé sous ces règles. Donc les institutions européennes doivent arrêter de payer de l'argent à la Pologne. Pour la Pologne, et ils ont en fait plusieurs voies qui sont possibles. Donc soit ils changent la constitution polonaise pour la remettre entièrement en comptabilité avec le droit européen, avec les traités européens, ou ils doivent quitter l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas dire on ne respecte pas les règles, mais on veut bien continuer à recevoir les fonds. Ça ne va pas marcher.
Mais la contrainte budgétaire, elle est importante, puisque si je ne me trompe pas, dans le plan de relance, la Pologne devrait recevoir 23 milliards d'euros et encore en plus de ça, en tant que subvention, mais en même temps des prêts garantis par l'Union européenne. Donc les sommes sont importantes. Est-ce que vous pensez que cette pression suffirait ou on va s'éterniser dans quelque chose d'assez lent? Parce qu'il faut bien le dire que pour qu'un pays sorte de l'Union européenne, encore faut-il qu'il le demande. Et on a bien entendu le Premier ministre polonais bien dire que lui, il n'avait aucune intention de sortir de l'Union européenne.
Oui. S'il ne veut pas sortir, il faut quand même accepter les règles, ça je veux bien. Et du coup, il vaudrait mieux changer la constitution polonaise pour qu'elle soit entièrement en bonne relation avec le droit européen. Moi, je trouve que le levier financier, c'est le meilleur levier qu'on a. Vous avez mentionné les fonds Corona, mais il y a aussi le budget ordinaire de l'Union européenne qui, chaque année, transfère énormément d'argent, des milliards.
La Pologne
et des milliards.
Est le premier bénéficiaire, oui.
Voilà. Et la Hongrie en est le deuxième. Et on a vu d'ailleurs avec ces zones qui se sont déclarées libres de minorités sexuelles, directement quand l'Union européenne a dit « bon, vous pouvez bien le faire, mais du coup, vous recevrez plus d'argent européen », la plupart des régions a déjà retiré ces déclarations.
Ces zones LGBTQI hein, qui excluent les personnes.
Voilà. Donc, du coup, moi je pense que ça va marcher assez rapidement parce que dans les deux pays, ça représente une partie énorme, quasi la totalité des investissements publics sont cofinancés par l'Union européenne.
Alors, vu que c'est une nouvelle procédure, qui est maître du jeu pour mettre en place cette demande de conditionnalité de l'état de droit? Est-ce que c'est la Commission qui doit saisir la Cour de justice? Comment ça va se passer concrètement?
En fait, il y a plusieurs mécanismes pour ce qui concerne les fonds Corona. Là, c'est la Commission qui doit valider le plan polonais. À la fin, c'est le Conseil qui l'approuve. C'est un peu pareil, en fait, pour la conditionnalité de l'état de droit. La Commission fait proposer d'arrêter certaines lignes budgétaires. Et encore une fois, c'est le Conseil qui approuve.
La majorité, cette fois-ci.
Voilà.
Très bien. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, j'ai découvert un groupe électro allemand, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Wildfires. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Philomena. On écoute ça et on se retrouve juste après pour revenir sur les élections fédérales allemandes.
There are wildfires, no, I can't control them all. They are too many to count. Burn everything to the ground. No one can stop them now. So get up and dance to the sound. Dance to the sound. Dance to the sound. So get up and dance to the sound. So get up and dance. There are white fires. Can't control them all. There are wildfires. No, I can't control them all. Always struggling, always fighting. It's hard to do the right thing. My head is full of demons, but it's kind of exciting. Why should I even bother? Cause you want me to. I would much rather, baby. Don't care and dance the floor. So get up and dance to the sound.
Control them all.
se retrouve, Monsieur Freund, pour continuer notre interview. J'aimerais avoir votre avis cette fois-ci sur les élections fédérales allemandes. Donc, déjà, comment analysez-vous les résultats, notamment pour les Verts, hein, vous que vous appartenez au Grünen, au parti des Verts allemands. Quel est déjà votre sentiment? Est-ce que vous estimez que c'est un bon résultat pour les Verts ou vous êtes un peu déçu?
On a fait le meilleur score jamais. Les Verts allemands qui ont eu presque 15% des votes, c'est très très fort. On va faire partie du prochain gouvernement. C'était toujours ça l'objectif, de vraiment changer la politique en Allemagne. Évidemment, si on regarde les sondages du printemps, on avait espéré de faire encore mieux. On pensait à un moment de pouvoir même gagner la chancellerie. On n'a pas pu réaliser ça, mais ça reste un score très, très fort.
Alors, la coalition donc, entre le SPD, hein, les sociodémocrates, donc les Grünen, comme je disais, les Verts, et le FDP, les libéraux, prend forme. On a déjà la trame hein, de l'accord de gouvernement. Là, commencent les vraies négociations gouvernementales de cette coalition. Que pensez-vous déjà de ce préaccord? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Il y a des choses que vous avez retenues. Et quels sont pour vous les éléments qui ne seront pas négociables pour les Verts?
Nous, on a toujours dit que le prochain gouvernement allemand doit être un gouvernement du climat. Parce que c'est vraiment cette législature qui commence maintenant. C'est la dernière où on peut activement gérer la crise climatique. Si on ne commence pas très sévèrement à couper les émissions de CO2 lors de cette législature, l'Allemagne pourra pas respecter l'accord de Paris et on ne sera plus capable de rester sur le chemin des 1,5 degrés de chauffement
climatique.
Voilà. Donc ça c'est la ligne rouge. On veut une vraie ambition sur les politiques climatiques. Moi je pense que le papier d'exploration, si on veut, qu'on a trouvé, ça donne une bonne forme à cette coalition. C'est la première fois en Allemagne qu'on a une coalition à trois. Ça s'est jamais fait avant, donc c'est quelque chose de nouveau. Ces trois partis n'ont jamais gouverné ensemble, évidemment à l'échelle fédérale. Donc on essaie vraiment de faire quelque chose de nouveau, et pas seulement sur les politiques, mais aussi sur la façon de faire, de ne pas seulement trouver le dénominateur commun le plus bas sur tous les champs, mais que chacun des partenaires va devoir céder sur quelques questions, mais gagner sur d'autres, mais pour trouver un deal pour les trois qui va vraiment faire avancer le pays.
On sent quand même qu'il y aura des difficultés hein, dans cette négociation. L'aspect, cette fois-ci, européen, on a trois partis qui sont quand même très européens, ça on peut le dire, hein, que ce soit les libéraux, les verts, et le SPD, ce sont des partis très européens, mais en même temps avec quand même des idées différentes, notamment par exemple si on prend les questions de dette, d'endettement, on a quand même des grandes différences entre les libéraux et les verts. Est-ce que, au niveau européen, que pensez-vous que ça va changer, cette coalition? Qu'est-ce que ça va changer par rapport à la période Merkel, qui a quand même été une période de 16 années?
Moi, je pense que le gouvernement allemand a toujours été une force d'intégration en Europe, sous Adenauer, sous Kohl. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu sous Angela Merkel. Souvent, maintenant, on était ceux qui avaient des doutes, qui freinaient, qui ne répondaient pas aux propositions du président Macron, par exemple. Et moi, j'espère vraiment qu'on est en train de mettre en place une nouvelle politique européenne qui parle à ses partenaires, qui respecte ses partenaires, mais qui prend des engagements forts en termes d'intégration européenne. Et là, tous les trois partenaires, on est assez d'accord sur une prochaine fédéralisation, plus de pouvoir pour le Parlement européen, des élections vraiment européennes avec des listes transnationales, pouvoir d'initiative pour le Parlement européen. Tout ça, c'est des points où on se met assez facilement d'accord. Il y a des différences sur l'investissement. Là, surtout, les libéraux sont hésitants, mais les Verts et les sociaux-démocrates on est assez en faveur de plus d'investissements européens. Donc ça, on verra.
Ça dépendra un peu qui sera le futur ministre des Finances aussi.
Ça va jouer un rôle, mais on ne laissera pas cette décision seulement à un ministre. Ça va certainement être tranché aussi dans l'accord global de cette coalition.
Vous estimez qu'on peut arriver à un accord, à un nouveau gouvernement allemand d'ici combien de temps, pour Noël, ou vous êtes plus optimiste que cela?
Je pense que ça va se faire avant la fin de l'année, oui.
J'aimerais terminer cette émission, ce que je fais à peu près traditionnellement, par une petite rubrique que j'ai dénommée Catch the Eye, qui est une procédure qu'on a au Parlement, de prise de parole au Parlement.
J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye.
J'aimerais vous poser quelques questions. Ce sont des questions courtes avec des réponses courtes. Alors, quelle est pour vous d'abord la plus importante réussite de l'Union européenne ?
La paix en Europe.
Et si vous deviez avoir un regret ou vous trouvez qu'il y a un échec au niveau de l'Union européenne, ce serait lequel ?
Qu'on n'a pas été plus rapide dans l'intégration, encore plus de coopération entre les pays.
Vous participez à la conférence sur l'avenir de l'Europe, celle qui doit réfléchir au futur de l'Europe pour en tant que représentant de votre groupe, hein, Les Verts. Quel changement souhaitez-vous pour l'Europe ?
Arrêter avec l'unanimité. C'est vraiment la plus grande faute de l'Union européenne actuelle.
Et si vous aviez un rêve, cette fois-ci, un souhait pour l'Europe, ce serait lequel ?
Encore plus d'échanges, que chaque Européen puisse avoir la chance de séjourner, de voyager dans un autre pays européen. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme en échange Erasmus. Moi, j'aimerais bien donner cette chance à tout le monde en Europe.
Et si vous aviez, alors là, on change totalement de sujet, mais ça peut être européen, si vous aviez un conseil de lecture, de musique, d'expo à faire à nos auditeurs, une découverte, que leur conseilleriez-vous ?
Écoutez la conférence sur le futur de l'Europe, parce que vraiment, si ce débat sur notre futur commun, ce n'est pas écouté par tout le monde, ça va aller dans le mauvais sens et les gens ne pourront pas participer.
Voilà, mais merci Monsieur Freund pour nous avoir consacré un peu de temps et avoir répondu à toutes nos questions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne.
Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.